France Info.
Bienvenue dans 8h30 Politique sur France Info, comme chaque samedi à la même heure, avec à mes côtés Yannick Halimi. Bonjour.
Bonjour, Yannick. Bonjour Mathéou.
Rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et bonjour à notre invité du jour, Aurore Berger.
Bonjour.
Députée La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Hier soir, nos confrères de l'émission Quotidien sur TMC ont dévoilé un enregistrement de la conférence de Laurent Wauquiez, président des Républicains, à l'école de management de Lyon. C'est peu dire qu'il parle très franchement. Voici ce qu'il dit notamment de la présidentielle de François Fillon et du camp Macron.
Objectivement, il a quand même eu un alignement de planète assez inespéré. Que Fillon gagne la primaire et que dernière, il le démolisse, je suis sûr et certain qu'il l'a organisé. Je pense qu'ils ont largement contribué à mettre en place la cellule de démolition. Oui, bien sûr. J'ai aucun doute que le machin a été totalement téléguidé.
Alors, il y a d'autres saillies, d'autres sorties sur lesquelles on reviendra peut-être avec vous, mais sur le fait que le camp Macron auquel vous apparteniez à ce moment-là est démoli sciemment la candidature Fillon, qu'est-ce que vous avez à répondre ce matin, Aurore Berger ?
Que déjà, la brutalité de Laurent Wauquiez m'étonne pas vraiment. Ensuite, sur ce qu'il dit sur la campagne présidentielle, il a participé à cette campagne présidentielle, il a participé à soutenir François Fillon, et nous, on a participé à faire campagne pour Emmanuel Macron et pour le candidat qui a gagné, tout simplement. On n'a pas fait d'entreprise de démolition. On a juste fait campagne. Et les Français, après, ont jugé par rapport à ce qui a été révélé et du projet de François Fillon, et aussi des affaires qui l'ont entouré.
Mais qu'est-ce que vous comprenez, Aurore Berger, quand Laurent Wauquiez parle d'organisation d'entreprises de démolition? Est-ce que vous pensez que c'était le fameux cabinet noir dont parlait François Fillon? On pensait que c'était celui de l'Élysée, à l'époque occupé bien sûr par Hollande, François Hollande. Est-ce que vous pensez que Laurent Wauquiez a ça en tête, ou est-ce que...
Je pense que c'est pas impossible, parce que quand on écoute le reste d'ailleurs de cette intervention qui donne à Lyon, il y a un peu ça. Il dit j'adhère pas à la théorie du complot, mais quand même. Donc oui, je pense qu'il y a un petit peu ça en tête, de dire que voilà, il y a une espèce de marionnettiste qui tirait les ficelles derrière, en coulisses, contre la
droite.
C'est
quand même assez grave alors, parce qu'il n'apporte pas de preuves, il relance comme ça des thèses du complot contre celui qui est aujourd'hui président de la République.
C'est pas neuf, mais ça met à jour, je trouve, qui est Laurent Wauquiez dans la brutalité qui est la sienne et dans la manipulation aussi de l'opinion. Il le fait régulièrement, où on sait qu'il tient des propos, puis juste après, il dit qu'il les a pas tenus, où il a menti sur un certain nombre de choses. Donc oui, je pense que ça met à jour pour le grand public qui il est et ses procédés.
Est-ce que aujourd'hui, sans parler d'entreprise de démolition, est-ce que le principal concurrent politique d'Emmanuel Macron et justement Laurent Wauquiez, ce qu'il représente bien sûr politiquement?
Ça, c'est difficile de le dire aujourd'hui. On a des oppositions aujourd'hui. Plusieurs à gauche, plusieurs à droite. À droite, est-ce que c'est Laurent Wauquiez seul qui représente les Républicains? Est-ce que c'est aussi Valérie Pécresse? Enfin, ça, c'est à la droite de le définir et probablement aux électeurs de droite de savoir vers qui ils ont envie de se tourner. Ce qui est certain, c'est qu'il a envie d'être le futur candidat des Républicains à l'élection présidentielle. Tout est fait pour ça. C'est pour ça qu'il a pris le parti et qu'il en a pris la présidence. Après, il resserre la droite sur une droite qui est identitaire. Il y a plus de libéraux, il y a plus de centristes, et c'est très significatif, même nous, dans les débats qu'on a à l'Assemblée nationale, où d'un coup, parfois, on a une espèce d'alliance improbable entre la France insoumise et les Républicains sur un certain nombre de sujets.
Laurent Wauquiez, qui évoque également Gérald Darmanin, son ex-collègue, désormais ministre de l'Action et des Comptes Publics, en parlant de Cahuzac puissance 10, on a appris hier soir que la plainte pour viol visant Gérald Darmanin avait été de nouveau classée sans suite. Il subsiste une plainte pour abus de faiblesse. Est-ce que cette plainte fragilise sa position au gouvernement ou toujours pas, à vos yeux ?
Moi, j'ai toujours eu une position constante sur le sujet, qui était de dire que si on voulait que la parole des femmes soit vraiment libérée et écoutée, il fallait que la justice soit respectée. Et on ne doit pas passer d'une présomption d'innocence à une présomption de culpabilité. Et justement, pour en revenir quand même à Laurent Wauquiez, il était le premier à demander la démission de Gérald Darmanin après la première plainte, une plainte qui a été à nouveau classée sans suite. Donc il faut être extrêmement prudent par rapport à la parole publique qu'on peut avoir dans ce genre d'affaires. On respecte la parole de la plaignante. Mais on respecte la présomption d'innocence.
Mais est-ce que justement l'idée peut-être qui pourrait permettre de faire en sorte qu'il n'y ait pas de polémique serait de ne pas commenter tout ça? Est-ce qu'en le soutenant, c'est ce qu'a fait Matignon, on risque pas d'avoir une position fragilisée? Quoi qu'en dise la justice après?
Ben, c'est compliqué de pas le commenter quand on est censé s'interroger dessus aussi. On en reparle ce matin. Tout simplement parce qu'à un moment, ça crée de l'actualité, parce qu'on est dans un contexte aussi très particulier. Et on est sur le fil. C'est-à-dire que si on veut pas que ce mouvement qui s'est passé, qui qui est pour moi extrêmement salutaire, derrière des rappes, ou que ça revienne en boomerang contre les femmes en décrédibilisant à tout jamais la parole de celles qui auront osé dénoncer, osé porter plainte, alors il faut faire extrêmement attention. Non, un ministre ne démissionne pas parce qu'il est visé par une plainte. Une plainte n'est pas une mise en examen, et une mise en examen n'est pas non plus une reconnaissance de culpabilité. Donc, il faut être très précautionneux.
Oui, mais Aurore Berger, justement, vous dites que la jurisprudence traditionnelle, c'est une mise en examen qui provoque la démission du ministre d'un gouvernement. Mais est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures, là, dans les gouvernements Macron-Philippe, depuis qu'ils se sont mis en place, dans la mesure où François Bayrou, Marielle de Sarnez, ont été, eux, obligés de démissionner, alors qu'ils n'étaient pas du tout mis en examen?
François Bayrou, il a fait un choix. Il a fait le choix de partir parce qu'il est dans une position particulière. Il était garde des Sceaux. C'était au moment où nous travaillions à l'Assemblée nationale sur le projet de loi sur la confiance, sur le changement des comportements. Et lui-même a considéré que le simple fait qu'il faisait l'objet de cette enquête pouvait gêner son action au sein du gouvernement. Et il est resté un pilier au sein de la majorité.
Sylvie Goulard, est-ce que ministre des Armées à l'époque, est-ce qu'elles étaient obligées de démissionner? Puisque c'était bien ça quand même, obligées de démissionner.
Ça, c'est votre interprétation. Moi, je vous dirais qu'on a des ministres qui ont fait des choix et qui sont aujourd'hui au cœur de la majorité. Marielle de Sarnez, elle est présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale.
Vous bottez en touche là,
François,
quand même. Hein.
Non mais attendez, ce sont des gens qui ont fait des choix, qui ont fait des choix politiques, parce qu'à un moment, ils ont considéré que ça pouvait occasionner une gêne. Ils sont restés au cœur de la majorité présidentielle avec le Modem et on travaille au quotidien avec eux, notamment avec François Bayrou.
Ah bon, vous travaillez au quotidien avec François Bayrou?
Évidemment.
Ah d'accord, c'est pas évident.
La
François
majorité,
Bayrou,
la majorité
est président du Modem.
La majorité présidentielle, c'est La République En Marche et le Modem. Et François Bayrou est le président du Modem, donc évidemment, on travaille avec lui.
Transition toute trouvée, puisque François Bayrou est ancien ministre de l'Éducation. Évidemment, entre autres, on va parler dans un instant de ce qui se passe du nouveau, du côté de l'éducation et donc du nouveau ministre Emmanuel Blanquer dans un instant sur France Info avec, à 8h40, d'abord l'info avec David Dauba.
Et Hugues, vous regardiez, il y aura du monde sur la route aujourd'hui, plus précisément sur là où les routes qui mènent dans la station de sport d'hiver, Bison Futé, voie noire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau national, la journée est classée orange sur donc l'ensemble du territoire avec le départ en vacances des vacanciers de la zone C. Nordal Lelandais, le suspect du meurtre de Maëlys, transféré hier après-midi dans une unité hospitalière sécurisée de la banlieue lyonnaise. Son avocat évoque un état dépressif et suicidaire. Depuis deux jours, il faisait l'objet d'une attention toute particulière. Donald Trump en Floride. Hier, il s'est rendu dans l'hôpital où sont soignées les victimes de la fusillade de mercredi, fusillade perpétrée dans un lycée de Parkland. Comme à son habitude, en tout cas dans ce genre de situation, il n'a pas dit le moindre mot sur l'épineux dossier du contrôle des armes à feu dans le pays. Et puis Monaco consolide sa deuxième place au classement de la Ligue 1. Les Monégasques ont largement battu Dijon hier 4-0, suite de la 26e journée, avec plusieurs matchs au programme, notamment à 17h PSG Strasbourg, puis à 20h Amiens-Toulouse, Caen, Rennes ou bien encore 3 contre Metz.
8h30 politique, toujours en compagnie de Jannick Halimi, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France, et de notre invité Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines. On va parler tout de suite, Jannick, non pas d'Emmanuel, évidemment, lapsus, mais de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale.
Voilà, de Jean-Michel Blanquer, dont les réformes semblent pour le moment en tout cas passer, la réforme du bac, la réforme de l'entrée à l'université. Il a fait, semble-t-il, un exercice extrêmement réussi à France 2 la semaine dernière. Est-ce que vous pensez, comme un magazine le titrait il y a quelques jours, Le Point, je crois, pour ne pas le nommer, que Jean-Michel Blanquer est le vice-président du gouvernement?
Je pense qu'il est le ministre de l'Éducation nationale et que c'est vraisemblablement l'un des meilleurs ministres de l'Éducation nationale que l'on a eu. Ça se voit déjà parce que il arrive à tenir des engagements qui étaient des engagements importants du président de la République, à l'époque candidat, que ce soit le dédoublement des classes, par exemple, dans les zones les plus défavorisées, et ça a été fait dès la rentrée scolaire, que ce soit la mise en place d'un dispositif qui est le dispositif devoir fait au collège, parce qu'on sait que les parents n'ont pas tous les mêmes capacités pour suivre tout simplement et accompagner les études de leurs enfants. Donc ça remet de l'égalité, de la justice au sein de l'Éducation nationale. Et puis là, ce qu'il est en train de faire avec la réforme du bac, qui de fait permet de réformer le lycée, l'organisation du lycée et de mieux préparer l'intégration au sein de l'enseignement supérieur.
Vous avez dit qu'il réussissait pour l'instant. Effectivement, d'ailleurs, je vais aller dans votre sens, puisque selon notre sondage à France Info hebdomadaire Odoxa Dentsu Consulting, 62% des personnes que nous avons interrogées ont une bonne opinion de Jean-Michel Blanquer. Écoutez ce que disait néanmoins, je voudrais vous faire réagir, c'était cette semaine chez nos confrères de France Inter, le sociologue François Dubet au sujet des réformes en cours du côté de l'éducation nationale.
Je trouve que les gages donnés aux conservateurs depuis des mois me font pas franchement plaisir et je trouve qu'il y a une certaine indifférence au thème des inégalités scolaires qui fait plus que me choquer.
Sur la réforme du bac, par exemple, on va avoir un diplôme qui sera beaucoup plus local que national désormais. Certains, notamment les syndicats enseignants, s'inquiètent qu'il y ait des disparités entre les territoires, entre les établissements. Le grand oral également, qui a été décidé, pourrait défavoriser des élèves de milieux sociaux défavorisés qui auraient plus de mal à s'exprimer à l'oral. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est important, hein, quand même, le message du gouvernement à ce sujet, à ceux qui pensent que ces actions risquent d'aggraver ces inégalités.
Je pense qu'au contraire, on aura un baccalauréat plus juste. Parce que aujourd'hui, déjà, vous avez un choix de filière à faire quand vous êtes en filière générale S, ES, L. Et vous êtes de fait un peu enfermé au sein d'une filière où il n'y a pas de passerelle d'une année sur l'autre. Donc vous faites un choix assez tôt dans votre scolarité, milieu de seconde, qui derrière préfigure non seulement la fin de votre lycée, mais préfigure aussi l'enseignement supérieur. Puis vous êtes évalué sur une fois, un moment, qui est le moment où vous passez les épreuves du baccalauréat. Là, vous introduisez des règles de contrôle continu qui sont évaluées par des bacs blancs que vous passez tout au long de l'année, enfin, ce qui équivaut en fait au bac blanc qu'on passait nous. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs opportunités pour améliorer le résultat qui sera le vôtre. La progression de l'élève aussi est jugée. Et la progression de l'élève, c'est quel que soit votre lycée, quel que soit votre environnement.
Mais choisir des spécialités ou spécialisations déjà en seconde, est-ce que c'est pas un peu précoce?
Mais justement, c'est-à-dire que vous avez des choix. On a un tronc commun, parce qu'on estime qu'il y a des humanités, qu'il y a des choses qui sont des socles que tous les élèves doivent pouvoir acquérir. Et puis après, vous avez le droit de choisir. Vous avez le droit aussi à un moment de vous dédire. C'est-à-dire, on choisit une première spécialité parce qu'on a envie de poursuivre sur une matière, parce qu'on a envie de préfigurer une voie, puis on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper et de faire un autre choix. Et ça, c'est la première fois qu'on a ça. Et puis on a des nouvelles matières aussi qui sont introduites, notamment par exemple tous les enjeux numériques et scientifiques, parce qu'on a un vrai besoin d'arriver à former plus d'élèves sur ces questions-là. Donc moi, je pense que ça remet plus de liberté et aussi plus d'égalité grâce à justement au contrôle continu.
Alors, Aurore Berger, tout de même, ce texte sur, en tout cas, l'accès aux universités, je ne parle pas de la réforme du bac, est stigmatisé par certains comme étant l'introduction et la mise en place de la sélection à l'entrée de l'université. Or, pour le moment, les étudiants et les jeunes en général ne se mobilisent pas contre le texte, alors que dans des périodes passées, on les aurait vus réagir assez vite. Comment expliquez-vous cela ?
Tout simplement parce qu'on ne met pas en place la sélection à l'entrée à l'université. Puisque le texte, le premier article du texte dit justement que l'on garantit pour tout bachelier un accès à l'enseignement supérieur. Donc c'est l'exact inverse de la sélection,
oui, mais
qui voudrait qu'on interdise à
certains. Automatiquement dans les filières qui le souhaiteraient, puisque c'est tout de même conditionné par le nombre de places prévues dans les universités en question.
Justement, ça, on change la donne. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui ? Du fait du nombre de places insuffisant, parce qu'on n'a pas anticipé, enfin les gouvernements précédents n'ont pas anticipé le fait qu'il y ait eu un baby-boom dans les années 2000, et que de fait, il y a pas suffisamment de place dans un certain nombre de filières. Eh bien, on faisait le tirage au sort. Ce qui est probablement, quand on parlait d'égalité, la chose la plus inégalitaire qui existe, c'est-à-dire on tire au sort si vous avez le droit ou non de choisir la bonne filière.
On a bien compris que ce n'était plus un tirage au sort.
Ça, on arrête.
D'accord.
Et ce qu'on dit, c'est vous faites des vœux. Vous émettez jusqu'à 10 vœux, 10 choix, c'est quand même beaucoup, par rapport à ce que vous voulez faire au sein de l'enseignement supérieur. Et en fonction des vœux que vous avez faits, soit on vous dit oui, vous pouvez immédiatement y entrer, soit on vous dit oui, si, et là vous avez juste des cours supplémentaires pour vous remettre à niveau, parce qu'à un moment il faut en finir avec cette fable qui est de dire que n'importe qui peut aller n'importe où, dans n'importe quelle condition, mais parce que derrière c'est 60% d'échecs en première année de
licence.
Mais
là quand on vous écoute, ça paraît idéal, mais le fait que la FAGE, encore une fois, le principal syndicat étudiant qui soutenait jusqu'ici le projet de loi, ait décidé de ne plus vouloir s'y associer il y a quelques jours, ça ne vous inquiète pas, ou en tout cas sur la pédagogie qu'il faut pour expliquer correctement ces réformes-là?
Ce qui est une certitude, c'est qu'on va continuer à expliquer. Mais on a déjà plusieurs centaines de milliers de vœux qui ont été remplis. C'est-à-dire que les jeunes se sont emparés vraiment de Parcoursup, avec un accompagnement pédagogique des enseignants, avec un accompagnement aussi de leurs parents. Évidemment, quand vous changez ce type de plateforme, il y a toujours un moment de stress, d'inquiétude, surtout quand vous êtes les premiers à devoir passer par ce type de plateforme. Mais on met fin à une inégalité évidente qui était celle du tirage au sort. On permet de hiérarchiser des vœux, on permet de les accompagner. Et encore une fois, on arrête cette fable. Et donc, on permet surtout un accompagnement personnalisé pour réussir dans le supérieur.
Très bien. Aurore Berger, vous venez de publier avec un de vos collègues députés un rapport sur les rapports, justement, les relations entre l'école et les parents. Alors là, pour aller très vite, hein, pour résumer, vous semblez être extrêmement, sinon agressive, en tout cas critique vis-à-vis du corps enseignant que vous qualifiez de déconnecté avec les réalités.
Ça, hein.
En tout cas, c'est ce qui se dit. Enfin, moi, il me semblait l'avoir lu tout
non,
de
non,
même.
Pas dans le rapport.
Déjà, sur cette première question, vous semblez aller tout de même complètement à l'inverse du discours du ministre, Monsieur Blanquer, qui lui semble totalement en sympathie, voire en empathie avec les enseignants, ça ne semble pas être votre cas. Comment expliquez-vous cela ?
Alors, nous, dans le rapport, on n'a jamais écrit qu'il y avait une déconnexion entre les enseignants et les parents, ou que les enseignants étaient déconnectés.
Entre les enseignants et les territoires, peut-être.
Je ne l'ai pas écrit, davantage. Je ne le pense pas.
Exactement.
Entre les enseignants et les territoires.
Enseignants et les territoires, absolument.
Non, mais vous
avez fait
bien de répondre.
Je ne l'ai pas écrit et je ne le pense pas.
Oui. Ah bon.
Ce qu'on dit juste, c'est qu'on a travaillé en particulier sur les familles qui sont les familles les plus pauvres. Comment on fait un moment pour raccrocher les familles les plus pauvres à l'école ? On a des familles aujourd'hui qui ne sentent pas légitimes à aller à l'école parce qu'elles sont en situation de pauvreté, parce qu'elles sont au chômage, parce qu'elles n'ont pas fait d'études. Et l'école, ce n'est pas que les enseignants. L'institution scolaire, parfois, éloigne parce qu'elle utilise un vocabulaire qui n'est pas adapté. Et je pense que tous les parents voient très bien ce à quoi je fais référence. Même les enseignants souvent nous disent qu'ils ont du mal avec des directives qui peuvent changer, avec du vocabulaire qu'on leur demande d'utiliser, avec quelque chose qui est assez jargonnant et qui est pas très qui favorise pas l'intégration des parents. On a besoin que les parents s'impliquent à l'école. Pour ça, on a besoin de rapprocher l'école des parents. C'est juste ça qu'on a essayé de démontrer dans ce rapport.
Et non pas les enseignants du terrain. Bon, bah écoutez, les journalistes ont très 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 mal compris. Mais ça peut déboucher sur quoi ce rapport qui a été, comme on dit, un rapport flash que vous avez rédigé en quelques semaines. Concrètement, ça peut déboucher sur quelles mesures ?
Ben, on a plusieurs mesures, par exemple pour la question des parents d'élèves, où on se dit que les élections de parents d'élèves sont parfois moins représentatives. Peut-être qu'on pourrait faire en sorte qu'il y ait plus de parents qui participent avec, par exemple, un tirage au sort qui puisse être fait. Encore une fois, pour rapprocher les parents
d'institution. Vous ne craignez pas de cabrer le corps enseignant
en tout cas,
en
c'est
voulant
absolument
intégrer
pas
un peu plus les parents
le but,
d'élèves
c'est
dans
qu'ils
l'école.
Mais oui, mais il y a une communauté éducative qui se forme autour d'un enfant. Un enfant, il est parfois un enfant dans sa famille, et puis il est un élève, mais c'est la même personne. Et donc, il faut que les gens arrivent à travailler ensemble.
On arrive vers la troisième et dernière partie de cette interview dans un instant. D'abord à 8h50, c'est l'heure de l'info avec David Doba.
Et cette journée noire sur les routes aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes au niveau national. La journée est classée orange avec le départ en vacances des vacanciers de la zone C. Dans ce contexte, les chauffeurs de VTC appellent à bloquer un certain nombre de villes. Lille, Nice, Paris, Bordeaux, Marseille pourraient être perturbés, pourraient, car pour le moment, le mouvement semble très peu suivi. Michel Fourniret avoue de nouveaux meurtres. Il se dit responsable des décès au début des années 90 de la Britannique Johanna Parrish et de la Française Marie-Angèle Domès. Le tueur en série a été condamné en 2008 à la perpétuité pour les meurtres de 7 jeunes filles. Mexico, une nouvelle fois secoué par un puissant tremblement de terre. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs. L'épicentre était situé à quelques 600 km au sud de la capitale. En septembre dernier, on se souvient qu'un précédent séisme avait causé la mort de quelques 400 personnes. Et puis, il y avait déjà peu de doutes sur la question. Il n'y en a plus du tout. Roger Federer est bel et bien un champion hors norme à 36 ans et 6 mois. Il est devenu le numéro 1 mondial, le plus âgé de l'histoire. Histoire du tennis en battant hier en quart de finale le néerlandais Robin Haas.
France Info. 8h30 politique sur France Info, toujours avec Yannick Halimi et notre invité du jour, Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines, porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Justement, l'Assemblée, parlons-en, le projet de loi sur l'immigration. L'Assemblée a finalement voté jeudi soir la proposition de loi sur les Dublinés, entre guillemets, qui va donc réautoriser le placement en rétention de ces demandeurs d'asile déjà enregistrés ailleurs en Europe. Il semble, en tout cas, que ce sujet ait été, s'il ne l'est pas encore, clivant au sein de la majorité. Je vous lis par exemple ce qu'a dit votre collègue des Yvelines. Il y a un danger de banaliser l'enfermement. Florence Grandjus, est-ce que ce sujet est toujours clivant au sein de la majorité ? Est-ce que finalement ce n'est pas une bonne chose qu'il soit clivant ? Ça voudrait dire qu'il y a plusieurs sensibilités qui s'expriment.
C'est sûr qu'il y a toujours eu plusieurs sensibilités au sein de notre mouvement politique, et ça, on s'en est jamais caché. Au début du mandat, on disait, attention, vous débattez pas assez.
Au début du mandat, vous disiez aussi qu'il n'y avait pas de clivage.
Mais on a toujours dit qu'il y avait des sensibilités différentes. Parce que, justement, on vient soit d'univers politique qui était différent, et on a décidé de travailler ensemble, et on a décidé de se mettre d'accord sur un projet, soit avec des gens qui, eux, n'avaient jamais eu d'engagement politique, qui avaient des engagements différents, associatifs ou professionnels. Donc, évidemment, ça crée du débat. Et c'est bien qu'il y ait du débat. On nous reprochait parfois au début du mandat qu'il n'y en ait pas assez. Mais sur ce question, asile, immigration, intégration, on travaille avec Gérard Collomb au quotidien ensemble pour qu'il y ait un point d'équilibre qui soit trouvé. Et le point d'équilibre, on est en train de le trouver, à mon avis, sur quelque chose d'assez simple, qui est de dire, oui, aujourd'hui, on accueille mal. Personne ne peut dire qu'on accueille bien celles et ceux qui veulent venir dans notre pays. On n'intègre pas. On le voit bien, les difficultés d'intégration, que ce soit à l'école, on en parlait, que ce soit sur la question du marché du travail. Et celles et ceux qui sont déboutés, on ne les expulse pas. Ce qui est donc incompréhensible pour tous. C'est incompréhensible en termes de chemin et d'organisation. C'est incompréhensible pour les Français qui se disent les règles sont là mais ne sont pas appliquées. Donc il faut à un moment
rendez-nous tout ça compréhensible, parce que effectivement, pour compléter votre analyse de la non-compréhensibilité de la politique d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a différents textes qui partent dans tous les sens. On parlait de la proposition de loi sur les Dublinés. Auparavant, il y avait eu le décret Collomb sur les rétentions administratives. Il va avoir le projet de loi asile-immigration qui va être accompagné d'un rapport d'Aurélien Taché sur l'intégration. Franchement, c'est polyphonique.
Non.
C'est très confusionnant, comme on dit mal de nos jours. Quel est ce point d'équilibre que vous voulez tenir de façon très précise? Est-ce que vous voulez être, par exemple, sur la ligne Collomb, qui est d'être extrêmement musclé et ferme sur tout ce qui est immigrés, migrants, clandestins, par exemple.
La ligne, à mon avis, c'est la seule ligne qu'on peut tenir si on est responsable, c'est de dire il faut qu'on puisse continuer à accueillir celles et ceux qui sont les plus vulnérables.
Et ça celles veut dire et ceux quoi, qui les fuient, plus vulnérables?
Celles et ceux qui fuient les guerres, qui fuient les persécutions, celles et ceux qui sont les réfugiés politiques. On doit continuer à donner l'asile politique dans notre pays. On doit les accueillir mieux et on doit les intégrer vraiment. Et pour que ça, ce soit possible, alors oui, il faut être ferme sur les questions d'immigration économique. Et oui, il faut dans ces cas-là expulser celles et ceux qui seront déboutés de leur demande de droit d'asile. Et là-dessus, on est tous d'accord sur ce point d'équilibre.
On n'a pas le temps de l'écouter, mais hier sur France Info, Jack Lang disait que la façon dont on comptait accueillir les migrants, c'était un peu petit et mesquin, et qu'on pouvait peut-être faire plus, faire davantage. Comment justement concilier fermeté et empathie, fermeté et élégance et humanité, oui.
Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait.
C'est ce qui est prévu.
Mais c'est ce qui est prévu. Parce que, encore une fois, si vous voulez que les... Parce que c'est les Français qui sont les premiers concernés. Si vous voulez que les Français continuent à vouloir accueillir celles et ceux qui en ont le plus besoin, qui sont les réfugiés politiques, alors on doit, dans le même temps, être ferme avec ceux qui auront été déboutés de leur demande d'asile.
Sinon, c'est incompréhensible. Il y a par exemple toujours des enfants encore en centre de rétention aujourd'hui, alors que les lois européennes l'interdisent. Comment évoluer sur ces questions-là?
Mais et donner on a une évolué. Image plus humaine. Par exemple, typiquement, le texte qu'on a adopté, moi j'étais en séance pour l'adopter, sur ce qu'on appelle la proposition sur Dublin, c'est justement pour répondre à des critères européens qui permettent de mieux accueillir, qui permettent aussi, à un moment, de ne pas garder celles et ceux, encore une fois, qui ne remplissent pas les critères.
Alors
du
justement,
droit d'asile.
Admettons que cette ligne soit à peu près claire entre les illégaux et l'accueil des légaux, notamment des réfugiés. Mais si on se met sur cette ligne-là, sur la ligne Collomb,
c'est la ligne du président de la République et de la majorité.
Entendu, il faut aussi qu'elle soit efficace. Or, oui. Comment pouvez-vous assurer l'efficacité, ce qui n'a jamais été le cas, même avant vous, de la reconduction aux frontières des gens qui ne sont pas acceptés en France? Parce qu'on sait très bien que jusqu'à présent, c'est un échec total. Il y a énormément d'immigrés déboutés dont on perd la trace, qui ne sont pas raccompagnés aux frontières, ni dans le pays d'accostage, si je peux dire, dès leur arrivée en Europe, ni dans leur pays d'origine. Comment rendre plus efficace cette politique de retour?
C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire mettre des accords avec les pays. Pourquoi en général...
C'est pas suffisant, vous le savez très bien.
Pourquoi aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui sont déboutées mais qui restent? Parce qu'en général, vous n'avez pas la politique de retour. C'est-à-dire que les pays refusent, par exemple, de délivrer les documents nécessaires
Absolument.
Pour qu'ils puissent rentrer chez
comment
eux.
Comment vous ne pouvez pas forcer ces pays à donner les documents?
Aujourd'hui, par exemple, la première population qui est déboutée du droit d'asile, ce sont les Albanais. Or, l'Albanie est un pays qui est sûr. Donc, on fait des accords, et Gérard Collomb est allé plusieurs fois en Albanie, de manière à ce qu'il y ait des accords, et ce qu'on puisse permettre cette politique de retour. Donc, ce qu'on fait avec les Albanais, on peut le faire dans d'autres pays, et c'est pour ça qu'on travaille.
Bon, on avait beaucoup d'autres sujets hein, concernant les réformes en cours à évoquer avec vous ce matin, Aurore Berger, mais l'heure tourne, évidemment, c'est terminé, désolé. Merci en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Merci à vous, Jeannick Halimi. On se retrouve, évidemment, samedi prochain, à la même heure, pour un nouveau 8h30 politique sur France Info. Merci à tous.